Vous écoutez France Culture.
Question d'éthique, une émission hebdomadaire, tous les lundis à 21h, proposée par Monique Cantot-Sperber. L'Énéide ou l'épopée d'Énée, un récit et un destin. Ibant obscuri sola sub nocte per umbram, il s'en allait obscur sous la nuit solitaire à travers l'ombre. Derrière ces vers si fameux de l'Énéide, de Virgile, qui invente une langue poétique pour dire l'indicible, l'entrée d'un grand vivant, Énée, dans le royaume des morts, se tient un monde complet. L'histoire des voyages d'Énée le pieux qui quitte à Troie, saccagé, avec son père Anchise et son fils Iule, le récit de son errance, puis de son arrivée sur les côtes d'Italie, font l'objet de l'Énéide. Le destin d'Énée est décidé depuis longtemps. Ayant fui Troie, il arrivera en Italie et sera le fondateur de Rome. C'est un héros libre de ses actions, libre de son commerce avec les dieux, qui réalise un destin. La puissance universelle de la littérature latine, et tout particulièrement de l'Énéide, repose sur l'association constante des souffrances et espoirs d'un homme libre et de son consentement à une histoire qui le dépasse. Elle vient aussi du monde d'images à laquelle elle se rattache. La poésie est comme la peinture, ut pictura poesis. Elle raconte et évoque comme elle. Et bien des vers de l'Énéide appellent, désirent une image semblable à celle que les fresques et mosaïques romaines nous offrent. Un ouvrage vient de paraître qui répond à cette aspiration de retrouver l'univers visuel qui imprègne le poème de Virgile. Les éditions Diane de Cellier publient ces jours-ci une très belle édition de l'Énéide dans la traduction rythmée de Marc Chouette, qui a été publié en 1985 chez Alexandre Julien, puis repris aux éditions Slatkin. Traduction de l'Énéide illustrée par les peintures, mosaïques, fresques romaines entre IIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au IVe siècle après. Diane de Cellier, bonjour. Merci bonjour, d'être Monique. Avec nous pour présenter ce chef-d'œuvre et nous aider à parler du monde visuel dans lequel l'œuvre de Virgile est baignée. Philippe Zé, vous êtes professeur de littérature latine à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié plusieurs essais sur la littérature latine et en particulier un sur l'Énéide qui était paru aux éditions Ellipse. Et vous avez préfacé l'ouvrage publié par Diane de Cellier. Et Noémine Daï est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comédienne et récitante qui rédige actuellement une thèse sur la représentation de l'altérité raciale dans le théâtre de la Restauration. Donc trois voix pour évoquer l'Énéide et nous aider d'ailleurs à mieux entendre la voix singulière de Virgile. Un des passages les plus beaux de l'Énéide en exergue à notre entretien la douleur de l'homme qui a tout perdu, ballotté par le destin.
Mes amis, nous savions ce que c'est que l'épreuve. Ô vous qui en avez supporté de plus dur, à nos présents malheurs aussi, Dieu mettra fin. Vous avez affronté la rage de Scylla, ses écueils mugissants, les rochers des cyclopes, rappelez vos esprits. Chassez crainte et tristesse. Ces souvenirs, peut-être un jour, vous seront doux. À travers les hasards, à travers les périls, nous gagnons le Latium, où les destins nous montrent de paisibles séjours. C'est là qu'ils nous permettent de voir ressusciter le royaume de Troie. Tenez bon, gardez-vous pour le temps du bonheur.
Quelle extraordinaire association de découragement et de confiance, Philippe Zé.
C'est une des inventions virgiliennes, ce puissant génie, s'il en est, qui a beaucoup suscité l'admiration, c'est la création du personnage d'Aîné. C'est un personnage qui officiellement appartient au monde de l'épopée, mais qui, à beaucoup d'égards, préfigure le personnage de roman. C'est une chose qu'on a bien soulignée, qui a bien frappé les esprits, et ne serait-ce bien entendu que son expérience de la souffrance par l'amour et l'expérience d'un cheminement qui est fondé sur la confiance, eh bien, ce personnage pré-romanesque montre l'extraordinaire, encore une fois, je me répète, capacité qu'a Virgile d'inventer du nouveau sur une légende ancienne, puisque, rappelons-le d'un mot, cette histoire n'appartient pas à Virgile. C'est une légende qui était bien connue des Romains et qui, d'ailleurs, peut-être n'est pas dénué de tout fondement historique.
À Aîné, les dieux donnent des signes. Il sait qu'il est guidé et protégé. Il sait à peu près où il va et quelle est sa mission, quelle est sa vocation. Mais en même temps, les événements qui l'accablent sont des événements opaques. Il en cherche le sens. Il tente de trouver un fil qui lui permettra de comprendre ce qui devra le guider. Vous avez parlé de la psychologie d'Aîné. Ce qui est étonnant aussi, c'est sa richesse d'empathie avec le monde, avec les souffrances humaines et même avec le monde naturel.
Il est complètement devant un monde à déchiffrer. C'est un peu l'image du jeu de piste qu'on peut employer. Il a la foi qu'il doit arriver quelque part, et ça il le sait, il est habité par cette certitude, mais il ne sait pas où il doit arriver. Et c'est la progression et ces rencontres avec toutes sortes de signes qui doivent être interprétés, les uns terrifiants, les autres généralement obscurs, qui rythment sa démarche vers l'accomplissement de sa mission. Et en cela, évidemment, c'est un héros qui souffre beaucoup. Aîné doit à Homère, bien entendu, n'est-ce pas ? Souvenons-nous des premiers mots de l'Odyssée, hein, qui présente Ulysse comme un homme qui a beaucoup souffert. Eh bien, Aîné est un homme qui connaît la souffrance et qui, si j'ose dire, au sens étymologique du terme, sympathise avec les souffrants.
Alors, ce sunt lacrimae rerum, ce vers...
Il y a une des formules. On peut considérer que le génie de Virgile ne se résume pas à une formule, mais une des formules par lesquelles, pour reprendre l'expression de Pascal, Virgile a bien placé la balle, c'est le fameux sunt lacrimae rerum. Aîné voit à Carthage une grande fresque qui représente les malheurs de Troie, ses propres malheurs, et il voit dans ce spectacle la capacité qu'ont les habitants de cette ville inconnue à eux-mêmes compatir à la souffrance des autres, et il dit « Sunt lacrimae rerum », il y a des larmes pour les choses. Et cette formule si belle, si dense, a fini par être interprétée à l'envers. Et on a souvent lu dans ces trois mots l'affirmation que les choses pleurent, puisque l'expression latine peut signifier ça, « il y a des larmes des choses ». Et dans la poétique de Virgile, nombreux sont les passages où il nous dit que les choses pleurent, les lacs pleurent à la souffrance des hommes eux-mêmes. C'est un univers d'une extrême compassion et c'est un sentiment qui n'est pas si répandu dans l'Antiquité, à l'époque où Virgile écrit, ni chez les philosophes, par exemple.
Mais c'est un sentiment qu'on retrouvera dans les métamorphoses de vie, aussi de la nature qui peut paraître inanimée autour de nous, est en fait habitée de présence. Derrière de lauriers qui sont là, c'est bien, il y a un couple qui a essayé d'éterniser son amour. Derrière une pierre ou un animal, il y a une souffrance humaine qui a été arrêtée et transformée. Cette animation générale de la nature, on la voit anticipée, en quelque sorte, dans l'Énéide. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir donner un équivalent, une restitution visuelle du poème de Virgile, Diane de Sellier ? Vous aviez publié une traduction des Métamorphoses d'Ovide, illustrée par la peinture baroque européenne, et qui était un ouvrage tout à fait remarquable. L'Énéide, vous avez choisi de l'illustrer avec la peinture de l'époque, c'est-à-dire avec la peinture
oui,
de l'Antiquité.
Oui, c'était la difficulté d'illustrer l'Énéide, comme je l'ai rencontré d'ailleurs quand j'ai publié l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, où j'ai fini par choisir un artiste contemporain pour l'illustrer. La difficulté, c'est qu'il y a très peu de peintures contemporaines de l'époque de Virgile qui racontent forcément l'Énéide. Donc il a fallu trouver dans le registre pictural ce qui allait le mieux évoquer cette atmosphère, ses exploits, cette errance, cette souffrance, cette aventure. Et à travers les fresques et les mosaïques du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, avec quelques emprunts préalables, entre autres à l'art funéraire grec, on a pensé vraiment retrouver l'atmosphère de cette épopée. Et je pense que toutes ces associations d'idées, ces transpositions, ces évocations ont permis de donner le souffle que vous venez d'exprimer avec Philippe Heuzé, de cette densité épique, de cet héroïsme, de cette souffrance et de cet homme à la poursuite de son destin.
Mais ce qui est fascinant dans la peinture romaine, peut-être moins dans les mosaïques, mais en tout cas dans les fresques, ce sont des gestes extrêmement accomplis. Les corps sont représentés avec beaucoup de détails, avec une sorte de fidélité saisissante. Et en même temps, ces personnages, ces motifs donnent l'impression d'être arrêtés dans le temps.
Mais je crois que le support de la fresque et de la mosaïque renforce cette impression-là, parce que ce sont des œuvres extrêmement fragiles, les fresques surtout. Si on peut aujourd'hui encore voir des fresques, c'est grâce à Pompéi, Herculanum et tous ces sites qui ont été recouverts par la lave, parce que les fresques sont appelées à disparaître avec la chaleur, la lumière. Et quand on les voit aujourd'hui, on voit non seulement la fragilité de l'homme ou de la femme exprimée par la fresque avec ses vêtements, ce raffinement, ses expressions extraordinairement belles et humaines, et qui sont renforcées par la matière, par ces traces d'usure, par la couleur qui se décolore, par des morceaux de mosaïque éclatée. Et toute cette fragilité, toute cette beauté de la peinture et de cette évanescence rend les caractères humains encore plus émouvants.
Et ces fresques ou ces mosaïques, vous les avez trouvées à peu près partout, et pas seulement dans les pays du bassin méditerranéen, pas simplement en Tunisie, pas simplement
non, on l'a trouvé
Pompéi,
en Angleterre,
il y avait en Roumanie
une mosaïque
aussi
incroyable en Angleterre qui représentait les aventures de Didon aîné.
Alors
ça, c'était
Somerset,
tout à fait étonnant, oui, absolument. Et ce sont des mosaïques très émouvantes avec différents...
À peu près partout et pas seulement dans les pays du bassin méditerranéen, pas simplement en Tunisie, pas simplement
Non, on l'a trouvé
Pompéi,
en Angleterre.
Il y avait en Roumanie
une mosaïque
aussi
incroyable en Angleterre qui représentait les aventures de Didon aîné. Alors
dans
ça, c'était
Somerset,
tout à fait étonnant, oui, absolument. Et ce sont des mosaïques très émouvantes avec différents passages narratifs qui montrent la rencontre des deux amants et puis leur retrouvaille dans la grotte. On a retrouvé également en Roumanie des peintures très étonnantes. C'est vraiment entre la fresque qui s'est diffusée dans le bassin méditerranéen, mais en partant plutôt vers le nord, et la mosaïque qui la recouvre, de la Syrie à l'Afrique du Nord, la Tunisie évidemment, la Turquie, on a vraiment pu retrouver des œuvres extrêmement belles, émouvantes, et qui ont eu une unité, qui est cette unité de l'Empire méditerranéen, enfin de tout le bassin méditerranéen de l'époque d'Auguste.
Vous avez rappelé, Philippe Heuzé, le lien entre l'Énéide et l'Iliade et l'Odyssée, les grands textes fondateurs de la culture antique. Ce lien est bien évident. Mais en dépit ou à côté de cette filiation homérique, l'Énéide est aussi un poème de son temps, un poème qui correspondait, dont l'écriture correspondait à une nécessité bien particulière et bien enracinée dans l'époque où a vécu Virgile. Donc Virgile est né à Mantoue, mort à Brindes. Il a vécu pendant le règne d'Auguste, enfin Octave, puis Auguste. Comment pourrait-on décrire les circonstances particulières et l'intention de l'Énéide, de la rédaction de l'Énéide?
Alors ça, c'est une question évidemment très débattue et de façon d'ailleurs parfois presque conflictuelle. D'une part, l'œuvre de Virgile, dès les premiers vers de la première bucolique, Virgile parle d'un jeune homme qui sera toujours pour lui un dieu. Et ce jeune homme, ce n'est pas encore Auguste, il s'appelle Octave, mais il deviendra Auguste. Et il est certain qu'après des hommages très appuyés à Auguste dans les Géorgiques, il est certain qu'un des aspects, non pas l'essentiel à mes yeux, mais un des aspects de l'invention virgilienne, c'est la célébration d'Auguste. Cet Auguste qui, aux yeux de Virgile, est celui qui a rétabli la paix. Virgile est né dans une période de terrible guerre civile, qu'il a connue, vraisemblablement d'ailleurs, de façon très très directe. Et ensuite, quelqu'un est arrivé et a su rétablir la paix. Aux yeux de nos contemporains, c'est une mauvaise affaire que, quand on est poète, de pactiser avec ce qu'on appelle, sans le qualifier davantage, le pouvoir avec un grand P. Mais s'en tenir à ces analyses qui sont très sommaires, c'est faire ce qu'on appelle un anachronisme psychologique. Il est très clair que la poésie de Virgile rayonne d'une grande admiration pour cet homme jugé providentiel et dont il prédit, comme on faisait à l'époque, qu'il deviendra un jour un dieu, n'est-ce pas ? Comme on faisait à l'époque. J'ai entendu, moi qui vous parle, des gens qui criaient sur la place Saint-Pierre « Santo subito » à propos de la mort du précédent pape. Et c'est un peu la même chose, n'est-ce pas ? Il s'agit, dans cette apothéose, de ce que maintenant nos usages on appelle une canonisation. Donc cette argumentation-là, elle est très très forte.
Mais au-delà, il y a la volonté de rattacher Rome à des origines troyennes.
Alors le deuxième élément, le deuxième héros, et le héros majeur à mes yeux de l'Énéide, ce n'est pas Auguste, c'est Rome. Que Rome existe est quelque chose d'absolument fascinant. Et fascine tous les Romains, tous les Italiens, tous les gens, d'ailleurs même les Grecs qui écrivent, nous avons des ouvrages d'historiens grecs qui écrivent avec admiration, Polybe, qui avec une grande admiration de l'histoire de Rome. Et que cette chose, le mot évidemment, serait très maladroit s'il n'était virgilien lui-même, puisque Virgile parle de pulcher rima rerum, Rome, la plus belle des choses qui existent. Cette chose est une anomalie. À la connaissance des hommes contemporains de Virgile, n'a jamais existé autrement. Cette espèce d'empire sur le monde qui récompense à la fois une valeur singulière du citoyen romain, les Romains le croient, et d'autre part, quelque chose qui s'apparente à une prédestination, n'est-ce pas ? Et le personnage d'Aîné joue cette carte-là de la prédestination, d'un espoir, d'une espérance qui
un jour deviendra. Oui, et prédestination, mais qui rattache à une origine extrêmement glorieuse, puisqu'elle est à l'origine de l'épopée grecque, de la destruction de Troie, mais également une origine divine, puisque Aîné est fils de Vénus. Alors, on a beaucoup insisté sur les liens étroits avec Homère. On a beaucoup insisté aussi, vous l'avez rappelé, sur le fait que Virgile exploitait une légende, au fond, que tout le monde connaissait. C'est même extraordinaire de concevoir une matière si nouvelle à partir d'histoires connues de tous. Il y a tout de même des choses qui ne tiennent qu'à Virgile. Même si le personnage de Didon était mentionné déjà par des auteurs, le lien entre Didon et Aîné, qui est un des cœurs de l'Énéide, a été entièrement forgé par Virgile.
Il y a une esquisse, une ébauche de cela dans un poète qui avait raconté les guerres de Carthage, les guerres puniques, et qui s'appelle Névius. Et il avait composé un poème en rattachant ces guerres puniques terribles, Carthage a été la grande rivale de Rome, à une histoire d'amour qui avait précédé. Mais évidemment, Virgile lui a donné un développement extraordinaire, qui est à la fois, j'en parlais tout à l'heure, de type romanesque, mais surtout de type tragique, hein, car le livre 4, c'est une tragédie parfaite qui commence.
Le livre 4, donc l'amour et ensuite entre Didon et Aîné, et ensuite le désespoir de Didon, nous l'évoquerons. Donc l'Énéide, une œuvre colossale, 10 000 vers, 12 livres, 6 livres d'errance, 6 livres de combat. D'ailleurs, c'est une structure en miroir par rapport à l'Iliade et l'Odyssée.
En chiasme, oui, tout à fait.
En chiasme. Et dès le début, nous sommes plongés dans une dimension du récit qui nous apprend son contexte, que nous allons assister à la trame d'un destin à la fois lumineux et obscur. Les premiers vers de l'Énéide.
Je chante les combats et l'homme qui, d'abord, chassé par le destin des rivages de Troie, s'en vint en Italie, aux plages lavinienne. Longtemps, les dieux d'en haut, sur la terre et sur l'onde, le traînèrent en proie au courroux de Junon. Et longtemps, il pâtit des malheurs de la guerre, jusqu'à ce qu'il fondât sa ville et transportât ses dieux au Latium. D'où la race latine, les Albains, nos aïeux, et les hauts murs de Rome. muse. Rappelle-moi les causes. Quelle offense, quelle blessure a fait que la reine des dieux contraignit ce héros d'insigne piété à subir tant de maux, à souffrir tant d'épreuves? Les dieux connaissent-ils de tels ressentiments?
Donc tout est présent déjà. Le destin d'Aîné, les souffrances à venir, la haine de Junon qui s'acharne contre lui en raison de l'offense qu'elle a subie lors du jugement de Paris. C'est donc de la haine insatiable qu'elle a après cela attachée aux Troyens dont Aîné est issu. La protection de Vénus qui ne cessera tout au long du poème de demander à Jupiter de mettre un terme à la violence de Junon et de faire respecter ses propres édits, puisque c'est Jupiter qui a décidé que Aîné parviendrait jusqu'à Rome. Cette très belle formule, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le poème, « Tant d'efforts du côté, la naissance de Rome », résume bien les souffrances qui se cachent derrière la progression d'Aîné. Cet affrontement entre les dieux qui est constamment évoqué dans l'Énéide, vous avez cherché à l'illustrer en de nombreux passages.
Ah oui, bien sûr.
Diane de Cellier, l'illustration des représentations de Vénus, celle de Junon.
Oui, mais Mercure aussi est très présent, Jupiter. Et c'était très intéressant de faire intervenir les dieux dans les fresques et dans les mosaïques pour illustrer l'Énéide, parce qu'ils sont omniprésents. Ils sont omniprésents aussi bien dans la littérature grecque, dans les épopées d'Homère, que dans la littérature latine. Donc on les retrouve et on a la chance de les retrouver essentiellement dans les fresques de Pompéi. Il y a des représentations de Vénus absolument superbes, Jupiter en majesté, Jupiter avec Cupidon, Jupiter imposant sa loi et discutant avec les différents dieux et déesses. C'est vraiment une iconographie extrêmement riche dont nous avons pu beaucoup profiter pour accompagner l'Énéide.
Donc voici Aîné au début de l'Énéide, jeté sur les côtes de Carthage avec sa flotte. Il rencontre Vénus, sa mère, mais qu'il ne reconnaît pas d'emblée. Vénus qui s'adresse à lui.
Je suis Aîné au cœur pieux, qui, sur ma flotte, ravis à l'ennemi, transporte mes pénates. Et ma gloire m'a fait connaître jusqu'au ciel. Je cherche l'Italie, où naquirent mes pères, et mon lignage issu du puissant Jupiter. Je me suis embarqué sur la mer phrygienne avec 2 fois 10 nefs. La déesse, ma mère, me montrait le chemin, je suivais les oracles. Il n'en reste que 7, à peine. Malmené par les flots et le russe, et moi-même, inconnu, dépouillé, je parcours les déserts de Libye, repoussé que je suis par l'Europe et l'Asie.
Vous écoutez France Culture, nous parlons de l'Énéide avec Diane de Cellier, Philippe Zé et Noémine Daille. L'arrivée d'Aîné à Carthage est l'occasion d'une scène tout à fait étonnante et qui est restée dans les mémoires, seulement des lecteurs antiques, mais des lecteurs plus proches de nous. Avant de parvenir dans la ville de Carthage, Aîné découvre sur une fresque des peintures, enfin sur les murs du temple de Junon, des fresques qui représentent sa propre histoire, depuis la chute de Troie. Sa douleur, son errance est déjà devenue une légende. On est dans un passage assez proche du séjour d'Ulysse chez les Phéaciens, et lorsque Ulysse entend sa propre souffrance et son errance et sa douleur transformée déjà en légende et en représentation poétique. Et ce passage étonnant où les malheurs de Troie sont décrits a pour contrepartie un autre passage à la fin du poème où cette fois-ci ce n'est plus le passé qu'Aîné peut contempler mais la postérité qui sera la sienne et les succès, les exploits que Rome, la ville qu'il fondera, connaîtra après lui. Philippe Zé.
Oui, et là, si nous cherchions encore une preuve de l'habileté géniale de Virgile, on verrait qu'il confie, comme vous l'avez dit, le passé aux arts figurés, à une grande fresque qui est peinte dans le temple de Junon à Carthage, et qu'il visite incognito avec l'émotion dont nous avons parlé tout à l'heure, et qu'il confie l'expression, la prédiction de l'avenir à une sculpture, une ciselure, qui est figurée sur un bouclier merveilleux qu'à la fin du livre 8, Vénus, sa propre mère, va apporter à Énée pour qu'il affronte les combats qui l'attendent. Alors, bien entendu, nous avons une réplique du bouclier d'Achille, là encore. Mais si on en avait à comparer les deux poètes, ce serait un excellent exercice de le faire. Ce qui est montré sur le bouclier, c'est l'avenir, l'avenir prestigieux d'une cité qu'Énée ne connaît pas et qui sera, bien entendu, Rome. Au centre du bouclier, il y a la victoire d'Axium. Sur les bords, tout en haut, il y a une louve qui a l'aide de jumeaux, bien entendu. Énée ne sait pas ce que ça veut dire, mais rayonnant d'admiration devant la beauté de l'objet, il le prend et il le met sur son épaule, n'est-ce pas ? Atolin sumero, famam que et fata nepotum, c'est un vers magnifique. Il porte à son épaule la gloire et les destins de ses descendants, en confiance de la beauté. C'est la splendeur de l'objet qui lui l'invite à faire ce geste par lequel Rome pourra exister. Si Énée n'avait pas pris ce bouclier, Rome n'aurait pas existé. La fin du livre 8 est grandiose pour cela.
Donc, les malheurs passés, la gloire à venir, et Énée reconnaît sa mère, dont cette femme en face de lui, il reconnaît Vénus, et introduit auprès de la reine Didon, la reine de Carthage, il évoquera la chute de Troie. Le livre 2 de l'Énéide est extraordinaire par sa puissance dramatique, puisque ce sont les différents épisodes du sac de Troie, d'abord de la prise de Troie et ensuite du sac de Troie, qui sont décrits. Et un des passages les plus saisissants est le récit de la mort de Laocoon. Laocoon, prêtre qui avait dissuadé les Troyens de faire entrer le cheval dans les murs à l'intérieur de la ville de Troie, de faire franchir au cheval les murs de la ville. Et les dieux, ce monstre marin, en provoquant la perte de Laocoon, ont induit les Troyens à croire en la force positive de ce cheval qu'ils vont introduire dans leur ville, et c'est cela qui causera leur perte.
Ils vont sans hésiter droit à Laocoon. D'abord, les deux serpents de ces deux jeunes filles s'enveloppent les corps, leurs replis les enlacent et leurs dents se repaient de leurs malheureux membres. Puis, leur père accourant en armes à leur aide, il est saisi, lié dans leurs énormes nœuds. Deux fois à sa ceinture, il, blessé, s'échappe de l'autel, secouant de sa nuque la hache mal plantée. Alors, les deux dragons, fuyant vers les hauteurs, gagnent le sanctuaire de la cruelle Tritonide. Et là, se cachent au pied de la déesse et sous son bouclier.
Cette scène...
Les deux dragons, fuyant vers les hauteurs, gagnent le sanctuaire de la cruelle Tritonide. Et là, se cachent au pied de la déesse et sous son bouclier.
Cette scène, Diane de Sellier, vous l'avez illustrée par une fresque, mais également par une sculpture.
Oui, la sculpture, nous l'avons mise pour illustrer une analyse très très intéressante dont j'espère que Philippe va nous parler, sur qui est arrivé le premier, le texte ou l'image, qui a inspiré qui. Et là, Philippe, si vous voulez bien développer, okay, c'est tellement passionnant.
Philippe, je vais essayer de faire court. Et c'est une grande et belle histoire, et évidemment à laquelle il faut se référer à chaque fois que l'on songe au rapport du texte poétique et d'une image. Et l'histoire est la suivante. Premièrement, l'aventure de Laocoon n'est pas inventée par Virgile. Elle est connue. Nous croyons savoir que Sophocle avait écrit une tragédie qui portait ce titre. Et donc cette histoire, elle est bien connue. Et du point de vue dramatique, évidemment, elle est essentielle, puisque c'est elle qui va déterminer finalement les Troyens à faire entrer le cheval dans leur ville et donc à accepter leur mort dans la joie. Du point de vue qui nous occupe, d'une part, il faudra un peu de temps pour le montrer, on a beaucoup admiré le talent narratif de Virgile qui rapproche les monstres de façon à ce qu'on voit à la fin le venin même qui touche leur victime. Et in extremis, n'est-ce pas, l'horreur de la dévoration est remplacée par un hurlement, puisque c'est le hurlement, un cri poussé, affreux, qui est le cri des victimes. La comparaison d'ailleurs mérite d'être signalée. Ce cri ressemble au meuglement atroce que pousse le bœuf qui a été mal sacrifié. Mais il faut savoir qu'un bœuf mal sacrifié, c'est de mauvais augure. Ce cri qui annonce cette souffrance, qui témoigne de cette souffrance, est évidemment de mauvais augure. Si les yeux des Troyens n'étaient pas aveuglés, ils l'entendraient et ils l'interpréteraient correctement. Voilà pour le récit. Mais il se trouve que l'on savait à part Pline qu'il existait une statue magnifique, statue que Pline qualifie comme le chef-d'œuvre absolu de tous les arts, et qui représente la mort de Laocoon et de ses deux enfants, sculptée par trois sculpteurs rhodiens. Et il en parle au livre 35 de l'histoire naturelle. Et l'événement extraordinaire, c'est que cette statue a été découverte au XVIe siècle et reconnue par les grands artistes qui connaissaient les auteurs antiques, évidemment, par cœur. Et ça a été un événement majeur dans l'histoire des arts. Et on s'est mis à admirer cette magnifique statue. On a écrit des poèmes, on l'a peinte, on l'a reproduite. Le thème de Laocoon est quelque chose d'extrêmement répandu. Et immédiatement s'est posé la question, qui imite qui? Car nous avons, dans ce cas précis, deux chefs-d'œuvre incontestables, un chef-d'œuvre de poésie et un chef-d'œuvre de sculpture. Et ce dilemme essentiel a inspiré un autre chef-d'œuvre critique, qui est le livre de Lessing, qui s'appelle « Laocoon, ou des limites de la peinture et de la poésie », et qui réfléchit justement de façon théorique, qui a une énorme influence sur les domaines et les moyens respectifs de chacun des arts, sans se prononcer sur la réponse. D'ailleurs, nous ne pouvons pas encore nettement nous prononcer, puisque la date du Laocoon est incertaine. Il n'y a pas d'élément décisif.
Rien n'est exclu que le sculpteur ait donné corps à ces vers extraordinaires, à cette scène extraordinaire que nous décrivent ces vers de Virgile. Nous arrivons au livre 4 de l'Énéide, la rencontre de Dinon et Né, la rencontre amoureuse, lors d'un orage envoyé par Vénus. L'homme et la femme se retrouvent seuls dans une grotte et l'amour naît entre eux.
Speluncam dido, dux et Troianus eandem deveniunt. Primet tellus et pronuba Iuno dans signum, fulse rignes et conscius aeter connubiis, sumo cullularunt vertice nymphae. Ille dies, primus leti, primus quae malorum causa fuit, neque nim specie famae movetur, nec iam furtivum dido meditatur amorem, coniugium vocat, hoc praetexit nomine culpam. Dans une même grotte arrivèrent Didon et le chef des Troyens. La terre tout d'abord et Junon nuptial ont donné le signal. Des éclairs ont brillé, complices de ces noces. Sur la cime des monts, les nymphes ont hurlé. Ce fut le premier jour des malheurs de Didon, la cause de sa mort. Rien ne la touche plus, ni le souci de la décence, ni sa gloire. Ce n'est plus un amour clandestin qu'elle couve. Du nom de mariage, elle couvre sa faute.
Didon et Aîné s'aiment, mais Aîné doit obéir à son destin. Son départ est imminent. Didon l'apprend, ne peut rien pour le retenir. Et dans sa plainte de femme abandonnée, toutes les femmes entendront, ou tous les êtres délaissés entendront cette voie atroce de la dépossession.
Dépouille que j'aimais tant que me le permirent les destins et les dieux. Recevez mon esprit. Délivrez-moi de mes souffrances. J'ai vécu. J'achève le chemin que le sort m'a tracé. Une grande ombre va descendre sous la terre. J'ai fondé ma cité. J'ai bâti mes remparts. J'ai vengé mon époux. J'ai châtié mon frère, heureuse, trop heureuse. Hélas, si seulement les navires troyens n'avaient touché nos rives. Elle dit, et pressant ses lèvres sur le lit, « Je mourrai sans vengeance. Il faut pourtant mourir, même ainsi qu'il m'est doux d'aller trouver les ombres. Que de la haute mer le cruel Dardanien repaisse son regard des feux de mon bûcher et qu'il emporte le présage de ma mort.
Après avoir quitté la ville de Carthage, Énée accomplira ce que d'autres héros de l'Antiquité avaient accompli avec lui, la descente aux enfers. Pourquoi Énée souhaite-t-il rencontrer, dans le royaume des morts, son père Anchise, mort depuis le départ de Troie, Philippe Zé ?
Il y a là une dimension considérable dans l'espèce de risque que prend Virgile en enchaînant les éléments de son récit, faire descendre son héros dans le royaume des morts. Alors bien sûr, là encore, Virgile se souvient d'Homère et de l'Odyssée, puisque Ulysse consulte les morts. Lui, il ne descend pas dans le monde des morts, il fait un petit trou, il fait un sacrifice, et il voit apparaître les ombres des morts au pays des Cimériens, qui étaient favorables à ce genre de prophétie. Mais Virgile va consacrer le livre 6, tout le livre 6, à la narration des conditions de l'entrée dans le monde des morts et à ce voyage extraordinaire qui, on s'en souviendra, aura tellement marqué les esprits au Moyen-Âge qu'il produira le chef-d'œuvre de Dante et la Divine Comédie, qui est évidemment une transposition de cette invention virgilienne. Dante, d'ailleurs, a pour guide Virgile. Et tout cela pour revoir son père dans l'autre monde et obtenir de la bouche de son père des informations, des renseignements, des enseignements, devrais-je dire, essentiels, les uns concernant rien moins que la condition humaine et les autres étant une esquisse de l'avenir glorieux promis aux Romains. Ce lien au père est un des caractères très significatif, là encore, de la psychologie du héros. N'oublions pas qu'il est parti en l'emportant sur ses épaules et que, de l'autre main, il tenait son fils, n'est-ce pas ? Cette figure à trois personnages, verticale, qui indique la filiation et la généalogie et qui s'en va vers le sens de faire l'histoire, n'est-ce pas ? Est très, très, très caractéristique de quelque chose, d'ailleurs, qui a été même interprété comme une nuance de la psychologie virgilienne.
Mais pourquoi retrouve-t-on dans ce héros virgilien, dans ce personnage d'Énée, cette malédiction divine ? Parce qu'après tout, n'y a-t-il pas un paradoxe à voir un homme dont la piété est sans cesse vantée et qui, à ce titre, se distingue nettement des héros de mer Pourquoi avoir attaché à cet homme, que caractérise sa piété, tant de malheurs, une telle fatalité divine? N'y a-t-il pas dans cette représentation que nous donne Virgile d'un personnage injustement persécuté par une colère irrationnelle, une sorte de manifeste virgilien, de, peut-être pas de doute, mais en tout cas de distance à l'égard des divinités qu'il se plaît à nous représenter sous les aspects qui émeuvent le plus la croyance populaire, alors que Virgile avait par ailleurs une réflexion religieuse, une profondeur très grande.
Très très profonde, certainement. Virgile refuse le simplisme qui considérerait que le pius homo est bien vu et récompensé et que le méchant est puni. D'une part, il sait d'expérience que les choses ne se passent pas de cette façon-là. C'est un des grands problèmes de l'humanité. Plutarque inventera les délais de la justice divine, plus tard, pour justifier que le méchant triomphe quand le bon est puni. Donc, aîné est pieux et extrêmement scrupuleux dans ses devoirs. Il est non seulement scrupuleux comme un superstitieux, mais il est croyant comme un homme de foi. Oui, et il est persécuté par...
Mais amer dans son commerce avec les dieux, est-il tant de rancœur dans les âmes célestes?
Ça,
c'est la phrase... C'est une phrase d'un homme qui n'a pas d'illusion sur la bonté divine.
C'est la phrase de Virgile, mais et comme notent les spécialistes, Homère ne se serait pas posé cette question-là. Il y a une réflexion sur, effectivement, la divinité, le rôle de la divinité, son rapport au bonheur. De toute façon, il est clair que Virgile n'a pas conçu un homme pour le bonheur. Aîné ne connaîtra pas le bonheur. D'ailleurs, lorsqu'il est blessé au livre 12 de l'Énéide, dans un passage célèbre, il dit à son fils « Apprends des autres le bonheur, de moi le devoir qui ne faiblit pas. »
Oui, enfin, aîné est la patte humaine dans laquelle un destin doit se réaliser. C'est la constante articulation des facta, des faits, de l'histoire et des éléments du destin.
Avec l'idée que le héros se sacrifie
à son destin.
L'Énéide est une grande méditation sur la notion de sacrifice.
Alors, dans la descente aux enfers, dans la quête à base, la rencontre avec Anchise donne lieu, comme vous l'avez rappelé, à un extraordinaire exposé métaphysique le père d'Énée, dans lequel il est difficile de ne pas reconnaître des thèmes épicuriens, des thèmes proches aussi de Lucrèce.
Il y a un énorme livre d'un grand savant du 19e siècle qui s'appelle Norden, qui étudie de près ce passage et qui y discerne des passages épicuriens, des passages surtout stoïciens, pythagoriciens, orphiques. C'est une synthèse d'une densité, d'une complexité extrêmement caractéristique du génie synthétique de Virgile. Je reprends la formule de son premier grand commentateur qui est Servius au 4e siècle après Jésus-Christ. Il nous dit « Tout Virgile est plein de science ».
Il est plein d'histoire aussi. Dans une scène étonnante de cette catabase, Anchise montre à son fils les âmes des futurs Romains, donc qui arriveront un siècle, deux siècles, trois siècles après, qui attendent leur réincarnation, armés de pieds en cap, tout prêts à jouer le rôle historique qui leur sera assigné dans la geste romaine. Et ils reviennent pour illustrer, au fond, un destin historique qui est en rapport très étroit avec l'actualité. Vous avez évoqué la fuite d'aîné de Troie, d'ailleurs, que Diane de Sellier a illustré par une photographie d'une fresque aujourd'hui disparue. Mais Octave, au fond, est aîné, évidemment, il est difficile de ne pas faire le rapprochement, mais enfin, Auguste est aîné et Octave est Iule. On a un dédoublement du personnage de l'empereur dans ces deux figures. De même que la tentation qu'a eu aîné de rester à Carthage auprès de Didon, n'est-ce pas une illustration du vertige de la tentation que beaucoup d'empereurs romains ont eu de revenir aux royaumes orientaux? Didon, c'est Cléopâtre, d'une certaine façon. La mort de Priam, c'est un peu la mort de Pompée.
Absolument.
Donc c'est toute l'histoire romaine qui se trouve projetée comme sur un grand écran dans cette épopée troyenne.
Ah, vous touchez du doigt un élément caractéristique de ce poème qui raconte une légende dans laquelle tous les deux vers, on voit la Rome présente, bien entendu. de façon très explicite parfois, lorsque par exemple Énée rencontre un culte que l'on fait à Hercule, c'est au livre 8, et qu'on lui explique que ce culte se fait sur un grand autel. C'est la description du rituel des sacrifices à Hercule de l'Ara Maxima. Donc ça c'est très... Le rapprochement avec Didon et crève les yeux, mais pour que Virgile s'assure bien qu'on l'a vu, il dit que dans les deux cas, les deux héroïnes sont Pallida, Morte, Futura. Il emploie les mêmes mots pour désigner la mort de Didon.
Mais alors, Énée aurait pu devenir Marc-Antoine.
Ah, il y a une attention. Si
Amoureux de Didon, comme l'autre l'était de sa Cléopâtre, non ?
Virgile est assez habile, encore une fois, pour ne pas nous dire qu'Énée aime Didon. Virgile ne dit pas ce qu'il éprouve. Il souffre. Didon souffre de la souffrance de Didon, c'est certain. Et il le lui dit magistralement aux enfers.
Oui, parce que Énée rencontre l'ombre de Didon aux enfers. Et cette rencontre est poignante parce qu'il n'a en face de lui qu'une femme brisée par sa douleur et en laquelle ne reste qu'un affreux ressentiment, qui lui aussi est annonciateur de l'histoire ultérieure de Rome et des guerres puniques, des guerres entre Carthage et Rome.
Ainsi, triste Didon, la nouvelle était vraie. Le fer avait servi ton funeste dessein. Hélas, j'ai donc été la cause de ta mort. Par les astres, les dieux d'en haut, je te le jure, par ce qui sous la terre existe de sacrés reines, c'est malgré moi que j'ai quitté tes rives. Mais les ordres des dieux qui maintenant me forcent à traverser ces lieux d'horrible pourriture, ces ombres, cette nuit profonde, m'ont poussé de toute leur puissance, et je ne pouvais croire que mon départ te causerait tant de douleur. Arrête, à mon aspect, ne te dérobe point, sais-tu bien qui tu fuis ? Pour la dernière fois, le destin me permet de te parler encore.
Cette visite aux enfers étonnante qui déploie la puissance de la métaphysique, on peut dire virgilienne, et la puissance d'évocation historique et poétique de l'imaginaire, de l'imagination d'Énée, se conclut de manière fort étrange, puisqu'au moment de sortir du monde des morts, Énée se trouve face à deux portes. L'une des la porte de la vérité, des histoires vraies, et l'autre, la deuxième porte qui permet de sortir du sommeil, celle des songes.
Il est deux portes du sommeil. L'une, dit-on, est de corne. Par là sortent les ombres vraies. L'autre, à le vif éclat de l'ivoire luisant, mais les mânes par là n'envoient à l'air du ciel que les songes trompeurs. Tout en parlant ainsi, Anchise reconduit son fils et la Sibylle, puis il les fait sortir par la porte d'ivoire.
Alors, comment comprendre cela ? La catabase n'était qu'un songe, une rêverie d'Énée ?
C'est encore un problème qui a fait couler beaucoup d'encre. J'étais, il y a quelques jours, à une thèse qui reprend la question. Et chacun a son idée. Résumons, n'est-ce pas ? Virgile, in extremis, semble appuyer sur la touche qui annule tout, en disant c'était un rêve. Alors, présenté comme ça, évidemment, c'est un peu trop schématique, il y a de grands rêves dans l'Antiquité. Il y en a un, bien connu, par un texte magnifique de Cicéron qui s'appelle « Le rêve de Scipion », qui était à la fin de la République, ou dans un texte qui nous a été conservé par Macrobe et qui est très profondément commenté par des auteurs de cette période, Scipion raconte qu'il a fait un rêve et qu'il lui a révélé l'essence de la destinée humaine et l'essence de Rome. Et ce texte était très, très admiré et son statut de songe n'est pas mis en cause. Mais il est très fréquent que dans l'art de Virgile, Virgile travaille à élaborer le flou.
Bon, c'est le génie du poète souvent réside dans sa capacité à créer l'indécision. C'est pas ça. De valeur de vérité unilatérale attachée à ce qu'il dit. Cette puissance de l'évocation virgilienne Diane Le Cellier, ça a dû être passionnant d'essayer d'en retrouver les traces dans la peinture. Vous représentez à un moment la douleur des femmes qui, des femmes latines, des femmes du Latium, qui vont assister à ces combats incessants que se livreront les Rutules, les Étrusques, les Volsques et puis les Troyens arrivés dans le Latium et qui occuperont un combat qui seront décrits pendant les derniers livres de l'Énéide. Vous avez représenté la douleur des femmes devant les malheurs de la guerre par une figure étonnante, qui n'est pas la figure d'une femme voilée.
Non, qui est la figure d'Agamemnon au moment du sacrifice d'Iphigénie. Et en fait, cette scène du sacrifice d'Iphigénie, qui est une fresque absolument magnifique, montre en avant-plan ce personnage voilé qui cache sa douleur derrière son voile et derrière ses mains. Et on voit des mains très longues, très, très féminines, qui, au moment où nous avions choisi cette œuvre, nous avait fait penser à la douleur d'une femme. Et Philippe nous a relevé qu'il s'agissait en fait d'Agamemnon. Donc la question se posait, garde-t-on l'image ou ne la gardons pas? Et finalement, le côté tellement universel de la douleur et la manière dont les choses aussi violentes que cette souffrance sont finalement indicibles, elles sont voilées. Et donc la présence d'Agamemnon devenait une présence universelle et avait tout à fait sa place dans le récit.
Mais de même, l'abandon de Didon, vous l'avez illustré avec des fresques représentant l'abandon d'Ariane. La fraternité entre Nisus et Eurial, vous l'avez représenté avec des fresques représentant Oreste et Pylade. Comme si, d'une certaine façon, on avait affaire à des scénarios fondamentaux que des êtres aux noms différents pouvaient illustrer de la même façon.
Oui, puis cela rejoint tout à fait notre discussion de ce soir, dans la mesure où effectivement toutes ces scènes sont transposables et elles appartiennent toutes à la culture épique et poétique qui a inspiré Virgile. Et pour nous, la recherche qui consistait à chaque fois à trouver les correspondances, les associations d'idées, par exemple, pour montrer la mort de...
Mésence,
voilà. Nous avons représenté sa mort par une figure allégorique qui est la verseuse de rose. Pourquoi ? Parce que la verseuse de rose est l'allégorie de la mort. La douleur de Didon, nous l'avons représentée très souvent par des ménades déchaînées. Donc il a chaque fois fallu trouver des correspondances qui soient non pas l'illustration directe du récit, parce qu'il y a évidemment très très peu d'illustrations directes du récit, mais par des associations d'idées, d'émotions, et par aussi cette espèce de culture universelle qui lie les poètes, les récits, les épopées et la peinture.
Les derniers livres de l'Énéide sont consacrés à décrire les combats qui ont lieu dans le Latium jusqu'à la paix finale, mais c'est là une description bien, bien réductrice par rapport à la richesse de ces textes, puisque les forces de discorde, la capacité qu'ont les passions humaines de s'enflammer pour des objets dérisoires, l'excitation des rivalités sont admirablement décrites par Virgile avec une perspicacité narrative et une beauté de langage qui sont tout à fait... et étonnante. L'Énéide se termine de manière inachevée au provisoire. Virgile avait demandé la destruction de l'Énéide après sa mort.
Oui, le récit est avéré et nul ne le met en doute. Virgile est mort en rentrant d'un voyage qu'il faisait en Grèce avec Auguste et il est tombé malade à Mégare. Il est rentré et il est mort au port de Brindisi. Et avant de mourir, il a demandé qu'on brûle l'Énéide. Alors évidemment, c'est une requête extraordinaire qui est généralement interprétée comme l'exigence de perfection d'un grand artiste. Virgile, considérant que son œuvre était inachevée, ne voulait pas qu'elle passât à la postérité en ces termes. Il y a, je l'ajoute, une autre version relativement récente liée justement à l'analyse de ses rapports avec le pouvoir, et qui disait qu'au moment de mourir, Virgile n'aurait pas voulu laisser ce monument si favorable à Auguste, et il aurait voulu, n'est-ce pas, supprimer les éloges indirects qui sont contenus, évidemment, dans l'Énéide, dans la relation aînée-Auguste. Mais Auguste n'a pas voulu, bien entendu, l'ouvrage n'a pas été brûlé, et ici commence un feuilleton qui n'est pas fini. Auguste a confié à deux éminents littéraires, hommes de lettres de son temps, Varius et Tucca, le soin de rendre publiable l'Énéide. Et il s'est passé un an et demi entre le moment de la mort de Virgile et la publication. Alors imaginez tout ce que l'on peut mettre dans cette année et demie de travail, peut-être acharné, et c'est la possibilité de mettre en doute ce qui ne vous plaît pas. Généralement, les critiques cèdent à la tentation de récuser ce qui ne leur plaît pas en disant « ça n'est pas de Virgile, ça a été ajouté » ou « Virgile l'aurait supprimé s'il avait eu le temps de le faire ». Et la question se pose en particulier pour l'interprétation du final de l'Énéide, qui est un passage, à mes yeux, absolument extraordinaire, n'est-ce pas ? C'est le moment où le héros, pieux, tendre, compatissant, prêt à tout pardonner, va en réalité tuer son rival, blessé à ses pieds, son rival qui lui demande le pardon. Tout dans Énée conseille la compassion et le pardon. Et c'est au moment où il va céder à cette tentation qu'il voit sur la poitrine de Turnus, c'est le nom, qu'il voit le signal, le baudrier de son ami Pallas que Turnus lui a tué.
Alors, modestes auditeurs, écoutons ce texte pour conclure, comme l'ont écouté ou entendu retentir dans leur esprit avant nous tous ceux qui ont vécu, qui ont écrit avec Virgile, et ils sont très nombreux. Vous avez cité Dante, mais on pourrait mentionner aussi Racine, Chateaubriand, Baudelaire et beaucoup d'autres. La mort de Turnus, les derniers vers de l'Énéide.
Énée s'arrête, frémissant dans son armure. Le regard incertain, il retenait son bras. Il hésitait de plus en plus, et ses paroles allaient peut-être le fléchir lorsqu'à ses yeux apparaît et flamboie au sommet de l'épaule le bouclier funeste aux clous étincelants de Pallas, cet enfant massacré par Turnus et dont il arborait la parure ennemie. En voyant ce trophée, en repaissant ses yeux de ce triste témoin d'une horrible douleur, Énée sent la fureur l'enflammer et terrible. Est-ce toi qui, paré des dépouilles des miens, éviterais mes coups? C'est Pallas par ma main, c'est Pallas qui t'immole et qui venge sa mort dans ton sang criminel. À ces mots, furieux, dans le cœur de Turnus, il plonge son épée. Un froid mortel saisit les membres du héros. Avec un cri plaintif, son âme courroucée s'échappe de son corps et s'enfuit chez les ombres.
Merci Diane de Cellier, merci Philippe Zé, merci Noémie Daille pour cet entretien. Merci à Luc-Jean Reynaud et à Alexandre Billard qui étaient à la technique. Merci à Anne-Catherine Lechard. Vous retrouverez demain Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir. Et pour Questions d'éthique, ce sera lundi prochain à 21h. Nous parlerons d'un personnage étonnant qui a traversé la collaboration en se compromettant, bien qu'il fût spécialiste de Proust et directeur de la Bibliothèque nationale. Mon invité sera Antoine Compagnon. À lundi prochain.